Vous écoutez On lit pour vous.
En juin, je lis Autochtones, 6 suggestions de livres jeunesse de divers éditeurs. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtones. 1. Kaboom, décollage de Jay Ojik et K.C. Auster, traduction d'Hélène Rioux, édition scolastique dès 8 ans. Voici Kaboom, Zach Komoda, agent du réseau. Regroupement d'espions pour la sauvegarde de l'environnement autochtone universel et le nouveau super-enfant du voisinage. Enfin, en quelque sorte, il est encore en train d'apprendre. Lorsque nous rencontrons Zach, il est pris en charge par sa tante Jess, qui est très cool, et il rêve de ressembler à son héros, Constantin Pierce, le roi de la techno. Les parents de Zach sont partis. Une fois de plus, pour leur importante carrière dans la vente de frigos. Zach est loin de connaître leur véritable identité. Loup gris et oiseau de l'ombre sont des agents du réseau en mission pour protéger des artefacts autochtones d'un infâme pilleur de tombes. 2. Johnny et Jesse reçoivent un message de Corbeau, de Johnny Aitken et Jess Willows, traduction de Michel Merino, Orca Books Publisher, dès 8 ans. Dans ce mini-roman partiellement illustré, une fillette récemment déménagée dans une petite communauté insulaire se lie d'amitié avec un jeune autochtone de la région au cours des vacances d'été. Quand ils commencent ensemble leur 4e année du primaire, ils doivent, au fil de leurs aventures, faire face à plusieurs défis et préjugés. 3. La folle journée de Wadaron, d'Isabelle Picard et Meki Ottawa, Bayard Canada, dès 6 ans. Wadaron rêve d'une seule chose, écouter les légendes que son grand-père raconte au plus grand lors des veillées d'été. Mais ses parents le trouvent encore trop jeune pour ces histoires qui donnent des frissons. Ce soir, c'est le dernier feu avant l'hiver et toute la famille sera réunie autour de la bannique et des récits du grand-père. Déterminé à prouver qu'il est assez grand, Wadaron multiplie les efforts, quitte à semer un peu de pagaille au passage. 4. Tout le monde aime Kisaki Itona de Julie Flett, traduction de Fanny Britt, les éditions de la Pastèque dès 6 ans. Dans cette histoire, des oursons, des canetons, des renards et plein d'autres créatures adorables nous montrent toutes les manières dont l'amour s'exprime. À travers la poésie des mots et la beauté des illustrations, Tout le monde aime nous rappelle les liens qui unissent tous les êtres vivants, nous révèle que le soin et l'affection existent partout dans la nature et célèbre cet amour qui nous définit. Nous aimons, nous aussi. 5. Mon Indien, de Michel Joey et Sheila O'Neill, traduction de Jean-François Cyr, édition Bouton d'or, Acadie, dès 11 ans. En 1822, William Epps Cormack fit appel à Sylvester Joey pour le guider à travers Terre-Neuve à la recherche des derniers campements béotiques de l'île. Dans son journal, Cormack n'utilise que « mon Indien » pour désigner son guide. Aujourd'hui, près de 200 ans plus tard, Michel Joey et Sheila O'Neill se réapproprient l'histoire du guide Mi'kmaq engagé par Cormack. Dans une remarquable fiction historique, Mon Indien retrace la vie de Sylvester Joey depuis sa naissance et ses débuts dans sa communauté, aujourd'hui sous le nom de Première Nation de Miapukek, jusqu'à son voyage avec Cormack. 6. Les Kodiaks, l'avantage de l'Atlas, de David A. Robertson, traduction d'Eva Lavergne, collection Pigeon Voyageur, édition David, dès 10 ans. Tout change pour Alex Robinson. Sa famille quitte sa communauté autochtone et s'installe à Winnipeg. Pour la première fois de sa vie, il n'arrive pas à s'adapter. Ses camarades de classe ne comprennent pas la culture autochtone. Les choses s'améliorent lorsqu'Alex s'inscrit dans une équipe de hockey, les Kodiaks. Il en devient rapidement l'un des meilleurs joueurs, mais il doit aussi faire face à des remarques racistes. Parviendra-t-il à s'intégrer tout en demeurant la personne qu'il est? Ce roman, rempli d'action comme une bonne partie de hockey, mêle habilement le sport et l'humour à des leçons de vie et à des suggestions pour rendre le monde meilleur. C'était En juin, je lis Autochtone, 6 suggestions de livres jeunesse de divers éditeurs. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtone.
Un cours sur les pensées des Premières Nations pourrait être donné dans tout le Québec. Un texte de Philippe Grenier, paru le 6 juin 2026 dans Espace Autochtone sur Radio-Canada Info. Le cours « Réflexions sur les pensées des Premières Nations » donné au cégep Beauce-Appalaches depuis 2022 pourrait être prochainement au programme de tous les cégeps du Québec ainsi que des écoles secondaires, où il ferait partie du cours « Culture et citoyenneté québécoise ». Grâce à un financement d'un peu plus de 150 000 $ du ministère de l'Enseignement supérieur, les créateurs du cours visent à en faire profiter le plus d'élèves et d'étudiants possible et en bonifieraient le contenu. L'idée, c'est de propager un peu le cours avec du contenu pédagogique qui sera accessible pour les professeurs pour qu'ils puissent partager dans leurs cours une vision autochtone qui est en lien avec des thèmes, que ce soit la politique, l'histoire, la santé, l'art, la littérature, la spiritualité, l'économie, explique Étienne Gourde, l'enseignant du cours à l'origine du projet. Le projet se veut le prolongement des 4 capsules pédagogiques lancé lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre dernier. Étienne Gourde est souvent interpellé par d'autres enseignants selon lesquels il n'y a pas de contenu ou c'est dur à trouver. C'est donc important pour lui d'offrir quelque chose qui est un peu clé en main pour qu'il puisse l'aborder puis l'intégrer dans leur approche. L'objectif ultime, c'est que ce contenu-là soit utilisé par les enseignants et de montrer cette vision qui est différente, qui est enrichissante, qui permet de mieux comprendre aussi ces peuples qui sont à côté de nous autres, dit Étienne Gourde, enseignant de philosophie au cégep Beauce-Appalaches. L'enseignant imagine des modules créés à partir d'un texte des membres des Premières Nations et accompagné d'une vidéo. Un cercle de consultation. Le projet est coordonné par un cercle de consultation mis en place au départ pour veiller à sa bonne marche. Je consulte des membres des Premières Nations pour savoir comment ils voient ça et ce qu'ils aimeraient, dit l'enseignant Beauceron. Membre du cercle de consultation. Alex McCumber, membre de la Nation Mohawk, professeur adjoint de médecine familiale à l'Université McGill. François Bastien, membre de la Nation Wendat, professeur agrégé et doyen associé aux affaires autochtones à la Peter B. Gustafson School of Business de l'Université de Victoria. Jean-François Létourneau, écrivain et enseignant de littérature au cégep de Sherbrooke. Étienne Gourde, enseignant de philosophie au cégep Beauce-Appalaches. Médéric Sioui, membre de la Nation Wendat, historien spécialisé en histoire des Premières Nations. Médéric Sioui, qui a aussi participé à l'élaboration du cours « Réflexions sur les pensées des Premières Nations » avec Étienne Gourde, rappelle l'importance du cercle de consultation. Ce sont des gens qui sont reconnus dans leur milieu pour avoir fait de la recherche, aidé à vulgariser des savoirs, les perspectives des Premières Nations. C'est pour s'assurer que le projet est un bel alignement et respecte les valeurs et la vision des Premières Nations dans ce type de projet-là. Des entrevues seront faites avec des aînés et des porteurs de savoir chez les Premières Nations. Le cercle va être un peu comme une boussole, un guide pour le projet, dit Médéric Sioui. Bien que le travail soit commencé, Étienne Gourde dit qu'il est en chantier, puisqu'il y a un souci de savoir comment les enseignants vont s'approprier ce contenu-là et qu'est-ce que ça demande. Il cite l'exemple des thèmes qui ne font pas l'unanimité parmi le groupe présentement, car la vision des Premières Nations ne se limite pas à diviser et à catégoriser les savoirs, tout étant lié pour elles. Les membres des différentes communautés des Premières Nations sont au centre du projet. Cercle de savoir, les communautés des différentes communautés des Premières Nations. Cercle administratif, communauté collégiale, commission scolaire, partenariat avec les organismes autochtones, ministère de l'Éducation supérieure. Cercle de consultation, Alex McCumber, François Bastien, Médéric Sioui, Jean-François Létourneau, Étienne Gourde. Un projet porteur. Par la voix de sa porte-parole, le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur a écrit à Radio-Canada que ce projet vise les cégeps qui n'ont pas de contenu autochtone et qui souhaitent en intégrer davantage au bénéfice des étudiants allochtones. Le ministère soutient financièrement ce projet parce qu'il inclut le partage aux autres cégeps le désirant, bien qu'il n'y ait aucune obligation d'ajout de contenu pour les enseignants, ajoute-t-elle. Pour le cégep Beauce-Appalaches, c'est une grande fierté, dit Jean-Philippe Vachon, directeur des études. Selon lui, la situation géographique du cégep fait en sorte que notre réalité envers la culture des Premières Nations est complètement différente de ce que tu sais d'un cégep dans le coin de Baie-Comeau et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Étienne a développé une approche pour sensibiliser puis éveiller les jeunes qui ne sont pas vraiment en contact avec les Premières Nations à leur culture pour bien développer ce sujet-là avec des non-initiés, explique le directeur des études et de la vie étudiante du cégep Beauce-Appalaches. Ce dernier souhaite aussi conclure d'autres partenariats dans l'avenir. Des rencontres dans les communautés auront lieu à l'automne et les concepteurs souhaitent voir le projet achevé d'ici 2 ans. C'était un cours sur les pensées des Premières Nations pourrait être donné dans tout le Québec, un texte de Philippe Grenier paru le 6 juin 2026 dans Espace autochtone sur Radio-Canada Info.
Le corps change, le plaisir aussi. Comprendre l'orgasme après 50 ans. Un texte de Joanne Martin, paru le 10 mars 2026 dans Virage. Le plaisir sexuel est plus souvent associé à la jeunesse qu'à la vieillesse. Pourtant, même si certains facteurs peuvent en affecter la fréquence et la qualité, l'orgasme demeure toujours possible et agréable, même à un âge avancé. L'orgasme consiste en une série de contractions musculaires et de relâchements, doublées d'une perception subjective de plaisir, explique d'emblée la sexologue Émilie Chantal Tremblay. Durant l'activité sexuelle, le plancher pelvien, les muscles situés dans le bas du bassin, se tend, poursuit la spécialiste. Une phase d'excitation assez longue créera ainsi beaucoup de tension, favorisant l'atteinte de l'orgasme. Celui-ci s'inscrit dans la chaîne des 5 phases qui caractérisent la réponse sexuelle humaine. Désir, excitation, plateau, orgasme, résolution. Comme les autres phases, il est influencé par plusieurs facteurs, dont le niveau de désir, le plaisir éprouvé, l'état de santé physique et le stress. En plus de procurer des sensations agréables, l'orgasme est associé à plusieurs bénéfices pour la santé, comme l'apaisement de certaines douleurs, l'amélioration de la qualité de sommeil et la réduction du stress. Raison de plus de ne pas bouder son plaisir. une expérience qui évolue. L'orgasme n'est toutefois pas un phénomène vécu uniformément. C'est une expérience qui peut différer d'un rapport sexuel, d'une période de vie et d'une personne à l'autre. En vieillissant, l'orgasme perd souvent de son intensité et de sa durée, pour l'homme comme pour la femme, tandis que le temps de stimulation requis pour l'atteindre augmente. Ces changements ne signifient pas une absence de plaisir sexuel, mais une modification de son expression. Chez les femmes, une diminution de la circulation sanguine et parfois un changement de taille ou de sensibilité du clitoris participent à cette transformation. La ménopause et la chute hormonale qui l'accompagne réduisent souvent la lubrification vaginale, ce qui peut rendre les rapports moins confortables et freiner le plaisir. Chez les hommes, la baisse progressive de la testostérone, sans supprimer l'orgasme, peut agir sur la libido et la force des érections. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles articulaires et les douleurs chroniques peuvent également altérer la fonction sexuelle, tout comme certains médicaments tels que les antihypertenseurs et les antidépresseurs. Les muscles pelviens affaiblis jouent aussi un rôle dans la difficulté à atteindre l'orgasme. Sur le plan psychologique, une estime de soi déficiente, le stress ou une insatisfaction relationnelle affectent l'expérience du plaisir. Désirs, attentes et idées reçues. Ajoutons que chez les personnes aînées, les représentations culturelles qui associent sexualité et jeunesse sont susceptibles d'inhiber l'expression du désir. N'oublions pas que dans certaines cultures et pour certains individus, le plaisir sexuel est encore à visée très procréative, rappelle la sexologue. Dépasser ces préjugés s'avère primordial pour que les individus s'autorisent à vivre et à partager leur sexualité sans culpabilité. Il existe plusieurs motivations à avoir une sexualité. Il y en a des négatives, comme le devoir conjugal, et d'autres positives. Est-ce pour relaxer? Pour m'aider à dormir? Pour me sentir désirable? Pour être en relation ou connecté avec l'autre? Pour vivre un bon moment? Pour avoir du plaisir? Il est aussi important d'avoir une bonne connaissance de soi, notamment des types de caresses et de positions que l'on aime et que l'on n'aime pas, ainsi que de bien comprendre les réactions de son corps. De la même façon, un dialogue ouvert avec son ou sa partenaire sur ses désirs, ses besoins et ses limites est crucial pour connaître une sexualité épanouie. Ajuster plutôt que renoncer. Il est évidemment essentiel d'adapter ses pratiques sexuelles à ses capacités physiques et à ses préférences pour enrichir son expérience. Ainsi, chez la femme, l'utilisation de lubrifiants ou d'hydratants vaginaux peut améliorer le confort et, conséquemment, la capacité à atteindre l'orgasme. Chez l'homme, le fait de traiter adéquatement les conditions telles que les problèmes érectiles avec un suivi et une médication peut faciliter l'ensemble de la réponse sexuelle. À propos des médicaments, d'ailleurs, on doit savoir que certains peuvent avoir des effets secondaires sur la sexualité. Si vraiment c'est incommodant pour nous, pour notre relation, il existe habituellement des alternatives avec les mêmes bienfaits, mais des impacts sexuels moindres, évoque la sexologue Émilie Chantal Tremblay. Tant les hommes que les femmes peuvent aussi accorder une attention particulière au plancher pelvien. Des exercices ciblés, souvent appelés exercices de Kegel, misent autant sur la contraction que sur la capacité à relâcher ses muscles, ce qui favorise les sensations et la conscience corporelle. Lorsqu'ils sont réalisés adéquatement, parfois avec l'accompagnement d'un ou d'une physiothérapeute, ces exercices contribuent à une sexualité plus confortable et épanouie, tout en soutenant la continence et les organes pelviens. Mentionnons aussi qu'un mode de vie actif, un sommeil réparateur, une alimentation saine et une bonne gestion du stress favorisent la santé globale et le plaisir au lit. Moins de pression, plus de plaisir. Sans nier le sentiment de bien-être qu'il procure, Il peut être préférable de ne pas faire de l'atteinte de l'orgasme le centre de sa vie intime. J'oserais dire que l'orgasme, plus on le veut, moins il arrive, lance la sexologue. Il vaut peut-être mieux s'enlever de la tête que l'orgasme doit être une fin en soi. On peut très bien avoir une sexualité fort satisfaisante sans atteindre l'orgasme, ou ne l'atteindre que parfois. Donc, qu'on soit en solo ou en couple, on baisse un peu la pression pour mieux faire monter la passion. Si vous avez des questions sur votre sexualité, des difficultés persistantes ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. C'était « Le corps change, le plaisir aussi, comprendre l'orgasme après 50 ans ». Un texte de Joanne Martin paru le 10 mars 2026 dans Virage.
Trois mères derrière un nouveau collectif pour l'équité scolaire. Un texte de Zacharie Goudreau paru le 4 juin 2026 dans Le Devoir. Trois mères de famille partageant une colère commune devant les impacts négatifs de l'école à trois vitesses sur le parcours scolaire de nombreux jeunes Québécois unissent leurs voix au sein d'un nouveau collectif pour l'équité scolaire qui n'écarte pas d'avoir recours à la voie juridique pour forcer la province à revoir la structure de son système d'éducation. Je pense qu'on a vraiment en commun cette colère-là face au système, lance en entrevue Marianne Marchand, qui administre ce nouveau collectif, présenté en exclusivité au Devoir aux côtés de Raphaël Rinfret-Pilon et de Manuel Croft. Toutes trois ont des enfants fréquentant une école secondaire québécoise où ceux-ci ont été témoins des impacts de l'école à trois vitesses, qui a pour effet de concentrer les élèves doués et issus de familles aisées, dans les écoles privées et au sein de programmes pédagogiques particuliers. Un modèle qui a pour effet d'augmenter la concentration d'élèves à besoins particuliers dans les classes régulières du réseau public. Le régulier, c'est devenu la dernière option. On est venu concentrer tous les problèmes au même endroit, soupire Mme Marchand, dont le collectif s'est donné comme objectif de documenter les effets des inégalités présentes dans le réseau scolaire pour ensuite forcer Québec à agir pour y mettre fin. C'est ainsi que la première action prise par ces trois mères engagées sera de recueillir les témoignages d'enfants ayant été refusés d'accès à un programme pédagogique particulier et de leurs parents. Ces refus surviennent parfois parce que les résultats scolaires de l'élève ne sont pas suffisamment élevés ou encore parce que celui-ci a manqué une rencontre d'informations concernant ce programme. Ce qu'on voulait, c'est vraiment de porter toutes les histoires des enfants refusés, puis à quel point la ségrégation scolaire, ce n'est pas juste un concept. Ça fait vraiment des ravages. En séparant des élèves de leurs amis et en affectant la qualité de l'éducation offerte dans le secteur régulier, poursuit Marianne Marchand. L'estime personnelle et le parcours de nombreux jeunes écopent ainsi de l'iniquité qu'engendre la structure de notre réseau scolaire, déplore-t-elle. De possibles actions judiciaires. Ces témoignages, une fois compilés et anonymisés, pourraient contribuer à nourrir d'éventuelles actions judiciaires, glisse Manuel Croft, qui, en plus de faire partie de ce collectif, est également membre du conseil d'administration de l'organisme École Ensemble. Des démarches judiciaires, hypothétiques pour l'instant, insistent les mères de famille, qui pourraient par exemple venir questionner le financement public des écoles privées, de même que les pratiques de promotion et de sollicitation visant notamment à inciter des élèves à s'inscrire à des programmes pédagogiques particuliers. On n'est pas rendu à l'étape d'engager des poursuites, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on considère sérieusement afin de forcer les élus à agir, ajoute Mme Croft. Les deux femmes espèrent entre-temps que la création de leur collectif contribuera à ce que l'enjeu de la ségrégation scolaire taille sa place au sein de la prochaine campagne électorale provinciale, cet automne. Le tout dans l'espoir qu'un jour, le réseau de l'éducation favorise réellement l'égalité des chances, conclut Marianne Marchand. C'était « Trois mères derrière un nouveau collectif pour l'équité scolaire », un texte de Zachary Goudreau, paru le 4 juin 2026 dans Le Devoir.
En juin, je lis Autochtone. Pourquoi la littérature jeunesse est-elle essentielle? Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtone. Chez Je lis Autochtone, nous croyons plus que tout que les mots ont le pouvoir de faire la différence. Les livres pour la jeunesse ont la liberté de faire rêver, de faire réfléchir une génération de lecteurs-lectrices. Pour comprendre l'importance de ces écrits, nous avons demandé à trois auteurs, autrices autochtones qui écrivent pour les jeunes, de répondre à cette grande question. Joanie Gill. La littérature autochtone pour les jeunes est pour moi un moyen d'éducation à la bienveillance. Elle permet la décolonisation des esprits, autant des enfants que des parents, tout en cultivant l'empathie et la curiosité. Elle devient un moyen d'accéder à l'intimité des réalités autochtones et à contrer certains préjugés et stéréotypes persistants. À travers les histoires écrites par des auteurs ou autrices autochtones, on apprend, on ressent et on se rapproche de soi et de nos cultures. Tout ça pour mieux se comprendre, s'apprécier et grandir ensemble sur un territoire partagé. Ouach Teskoun. La littérature autochtone peut devenir un miroir dans lequel les jeunes cherchent à se reconnaître. La lecture permet, entre autres, de mettre des mots sur des concepts ou des émotions qui peuvent leur sembler encore flous à leur âge. Les jeunes autochtones traversent tous et toutes des parcours qui varient du fait de leur identité culturelle, de leur famille ou de leur environnement dans lequel elles ont grandi. Je crois que, de plus en plus, la littérature autochtone offre une variété dans laquelle chaque jeune peut se reconnaître. Mélanie Kistabich. Quelle joie de tenir un livre écrit par des auteurs-autrices issus des Premières Nations. Dans mes années au secondaire, j'aurais tellement aimé pouvoir en lire et surtout pouvoir les partager avec mes camarades de classe. Lire ces livres m'aurait tellement aidé à comprendre le mode de vie et défaire les stéréotypes historiques qui perdurent encore aujourd'hui. Les auteurs, autrices autochtones diminuent l'isolement des étudiants et étudiantes et augmentent leur estime. Qui de mieux placé pour écrire sur ces sujets que les Autochtones eux-mêmes? Nos savoirs ancestraux étaient autrefois transmis oralement. Mais aujourd'hui, l'écriture peut les faire voyager d'un océan à l'autre. Laisser sa trace par l'écriture permettra de sauvegarder des fabuleuses histoires, légendes et connaissances millénaires. C'était « En juin, je lis Autochtone ». Pourquoi la littérature jeunesse est-elle essentielle? Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet « Je lis Autochtone ».